Antidote, une émission qui vous propose une cure de désintoxication mentale par la lecture et la réflexion. Des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un ouvrage, juste histoire de ne pas penser en rond et de se laisser bousculer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour cette nouvelle chronique d'Antidote, eh bien nous allons parler de lumière. Alors des lumières, et aussi de la lumière, et aussi des réveils matins. Mais attendez la suite. Je me suis appuyée sur un article écrit en 1998 par Robert Kurtz. C'est un article qui fait partie d'un recueil de textes paru en 2005 aux éditions Ligne sous le titre « Avis aux naufragés ». Je vous conseille vraiment cet ouvrage où chaque article est une source de réflexion vraiment importante. Je me suis concentrée aujourd'hui sur un seul de ces articles. On va y revenir. Un petit mot avant ça de Robert Kurtz. Alors, il est né en 1943 et il est mort en 2012, donc récemment. C'est un théoricien allemand qui a participé à une réinterprétation de l'œuvre de Marx au sein du courant appelé en Allemagne « Wertkritik », c'est-à-dire la critique de la valeur. Il est dans les mêmes courants, on va dire, pour ceux qui connaissent un petit peu, que Moïse Panton ou Anselm Japp. Alors, il a fondé plusieurs groupes, dont le groupe Crisis, qui a publié en 1999 un texte assez connu, qui est le Manifeste contre le travail, qui est aujourd'hui disponible aux éditions 10-18, qu'on trouve aussi en téléchargement sur Internet. Et il a écrit également d'autres ouvrages, comme Lire Marx, qui a été publié en 2002 à la Balustrade, Critique de la démocratie balistique, La gauche à l'épreuve de guerre mondiale, ça s'est paru au Mille et une nuits en 2004, Vie et mort du capitalisme, Chronique de la crise, ça c'est aussi aux éditions Ligne en 2011. Mais il y a énormément d'ouvrages et de textes et d'articles de Robert Kurtz qui n'ont jamais été traduits en français. Et c'est dommage parce que c'est une source très intéressante de réflexion. Et à partir de 2004, il a créé un nouveau groupe, Exit, qu'on peut trouver d'ailleurs sur Internet et où il y a tout un tas d'articles, dont quand même pas mal d'articles traduits en français. Voilà, alors l'article dont je veux vous parler aujourd'hui a pour titre « Les lumières des lumières, le symbolisme de la modernité » et l'élimination de la nuit. Alors dans cet article, Anselm Japp nous rappelle que la philosophie de ce qu'on a appelé les Lumières, et dont les bases furent jetées au XVIIIe siècle, est aujourd'hui considérée, du moins par le plus grand nombre, comme l'horizon intellectuel indépassable. L'histoire de la modernisation se délecte d'ailleurs de métaphores évoquant la lumière. Il reviendrait au soleil rayonnant de la raison de chasser l'obscurité de la superstition et de faire apparaître au grand jour le chaos du monde pour pouvoir enfin construire la société selon des critères rationnels. L'obscurité n'est pas perçue comme l'autre face de la vérité, mais comme l'empire du diable. On sait très bien ce qu'on appelle l'obscurantisme, par exemple, et comme on a vite fait de caractériser l'autre comme un obscurantiste. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que ce symbolisme de la modernisation reflète une forme de déraison paradoxale de la raison capitaliste, comme je vais vous en lire un petit extrait. Il nous dit Robert Kurtz, « Les métaphores modernes de la lumière ont en effet une étrange odeur de mysticisme. L'idée d'une source de lumière brillant dans quelque au-delà, comme le suggère la raison moderne, rappelle les descriptions des royaumes des anges, éclairés par l'éclat de la lumière divine, ou les systèmes religieux d'Extrême-Orient, d'où nous vient le concept d'illumination. La lumière de la raison moderne a beau se vouloir comme inscrite dans ce bas monde, elle n'en revêt pas moins un caractère étrangement transcendantal, voire on pourrait dire religieux. Alors, ce que nous dit Robert Kurz, c'est que ce paradigme des Lumières a été l'expression philosophique du système de production capitaliste qui s'est développé de façon concomitante. Et en effet, cette lumière n'est pas un simple symbole relevant du monde des idées. Elle est également présente concrètement dans nos vies, notamment depuis cette fin du XVIIIe siècle, jusqu'à avoir envahi aujourd'hui la totalité de notre espace et de notre temps. Une petite parenthèse ouverte par Robert Kurz, il nous dit « Il a été fatal que le marxisme et le mouvement ouvrier se soient sentis les héritiers de cette philosophie de la lumière, car ils sont ainsi devenus les meilleurs alliés du système capitaliste. » En appuyant notamment tout le système autour du travail et de la productivité. Il nous cite notamment, et c'est assez drôle, une phrase, une strophe de l'Internationale, donc l'hymne du communisme, qui dit du merveilleux avenir socialiste que le soleil y brillera toujours. Et alors il y a un caricaturiste allemand qui a pris cette phrase au pied de la lettre et qui nous montre, donc, à travers un dessin, le règne de la liberté, où des hommes trempés de sueur lèvent la tête vers le soleil en soupirant « Voilà 3 ans qu'il brille et ne veut plus se coucher ». Aujourd'hui, les hommes et les femmes pourraient dire « Voilà plus de 200 ans qu'il brille et il ne veut toujours pas se coucher ». Et oui, c'est ce qu'on a voulu. On a voulu un soleil permanent et des lumières permanentes. Alors, ce n'est pas qu'une simple boutade, parce qu'en effet, la modernisation a véritablement fait de la nuit le jour. Alors, un petit peu d'histoire. En Angleterre, pays qui, comme on le sait, a été pionnier en matière d'industrialisation, l'éclairage au gaz fut introduit au début du XIXe siècle, se répandant bientôt dans toute l'Europe. Et à la fin de ce même XIXe siècle, l'électricité a remplacé le bec de gaz. La médecine a prouvé depuis longtemps que la confusion entre le jour et la nuit, par l'omniprésence de la froide lumière des soleils artificiels, perturbe le rythme biologique des humains et provoque des troubles psychiques et physiques. Alors, pourquoi cet immense éclairage planétaire qui a pénétré aujourd'hui jusque dans les moindres recoins ? Ben pourquoi ? C'est assez simple. Parce que l'activité sans répit du mode de production capitaliste ne peut fondamentalement tolérer aucun temps qui demeure obscur. Car le temps obscur est aussi celui du repos, de la passivité et de la contemplation. Le capitalisme exige l'extension de l'activité jusqu'aux dernières limites physiques et biologiques. On le voit aujourd'hui à travers les limites physiques de la planète, par exemple. Ces limites sont déterminées dans le temps par la rotation de la Terre sur elle-même, donc par les 24 heures pleines de la journée astronomique, avec sa partie éclairée, tournée vers le soleil, et sa partie obscure, détournée du soleil. Le capitalisme tend à rendre totale la partie active, le côté soleil. La partie nocturne va à l'encontre de cette tendance. Il faut donc que la production, la circulation et la distribution des marchandises puissent fonctionner 24 heures sur 24, car, on le sait bien, le temps, c'est de l'argent. Robert Kurz ne s'arrête pas là. Il nous dit que, parallèlement à cette invasion de la lumière, deux autres changements fondamentaux vont avoir lieu à la même période et vont aller dans le même sens. C'est en effet en 1795 que la Révolution française institua le système métrique. Il se répandit à peu près aussi rapidement que l'éclairage au gaz. Les mesures de longueur, basées sur les parties du corps humain, pieds, pouces, etc., et aussi différenciées et multiples que le sont les cultures humaines elles-mêmes, furent remplacées par la mesure abstraite du mètre censée correspondre au 40 millionième de la circonférence de la Terre. Cette unification abstraite des mesures de longueur était conforme à la vision du monde de la physique newtonienne, vision qui devait inspirer, on le sait, l'économie mécaniste du libéralisme d'aujourd'hui, telle qu'elle fut analysée notamment et prônée par Adam Smith. La vision de l'univers et de la nature comme une seule et grande machine coïncidait avec la machine monde économique du capital, et les unités de mesure astronomiques devinrent la forme commune de la machine monde physique et économique. Donc on a cette adoption d'un système métrique mondial, mondialisé, généralisé, et donc basé sur cette vision abstraite de l'espace. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'à côté de ce maître astronomique, il y a l'heure astronomique, l'unité de mesure du temps abstrait. Et ce n'est pas un hasard si c'est à partir du 19e siècle, du début du 19e siècle, que se sont généralisés tous les instruments qui permettent de donner l'heure astronomique. C'est aussi à ce moment-là, d'ailleurs, entre parenthèses, que sont généralisés et mondialisés les calendriers, par exemple. Mais pour revenir à l'heure, c'est l'invention et la généralisation des pendules, horloges, montres, réveils, etc. C'est seulement grâce à ce temps abstrait qu'on a pu prolonger le jour du travail abstrait dans la nuit et grignoter le temps de repos. Le temps abstrait pouvait être détaché des choses et des conditions concrètes. La plupart des anciennes mesures du temps, telles que les sabliers ou les horloges à eau, n'indiquaient pas l'heure qu'il est, mais étaient étalonnées sur des processus concrets et en mesuraient la durée nécessaire. On peut, par exemple, les comparer aux sabliers qui signalent la durée de cuisson d'un œuf, dur ou à la coque. Ici, la quantité du temps n'est pas abstraite, mais elle est orientée sur une certaine qualité. A l'inverse, le temps astronomique, donc celui que l'on utilise aujourd'hui, du travail abstrait, est détaché de toute qualité. La différence devient évidente quand, par exemple, on lit dans des documents du Moyen-Âge que le temps de travail des serfs sur des grands domaines dure de l'aube à midi. Cela signifie que le temps de travail se calcule en termes relatifs. Il varie selon les saisons. Il est plus court en hiver qu'en été. L'heure astronomique abstraite, en revanche, a permis de fixer le début du travail pour tout le monde à la même heure, indépendamment de la saison et du rythme biologique des êtres humains. Voilà pourquoi le capitalisme est aussi l'époque des réveils. On vient au réveil matin. Ces horloges qui, avec une sonnerie stridente, arrachent les gens à leur sommeil pour les chasser vers la lumière artificielle de leur poste de travail. Et une fois que l'on eut avancé le début du travail dans la nuit, c'est-à-dire avant le lever du soleil, on peut à l'autre bout repousser aussi la fin du travail après le coucher du soleil. Robert Kurtz nous rappelle qu'au XVIIIe siècle et au début du XIXe, la prolongation aussi bien absolue que relative du temps de travail par l'introduction de l'heure astronomique abstraite était ressentie comme une torture. Longtemps, les gens menèrent une résistance désespérée contre le travail de nuit lié à l'industrialisation. Travailler avant l'aube ou après le coucher du soleil était quasiment considéré comme immoral. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, quand des artisans devaient exceptionnellement travailler de nuit, il fallait les nourrir copieusement et les rémunérer comme des princes. Le travail de nuit était une exception rare. C'est l'une des grandes prouesses du capitalisme que d'avoir réussi à faire de la torture du temps la norme de l'activité humaine. Alors quand on parle de travail de nuit, je ne parle pas ici du travail 20h, 7h du matin. Je parle de tout le travail qui se fait, et c'est très courant, j'ai beaucoup de travailleurs, avant le lever du soleil et après le coucher du soleil. L'hiver, il faudrait arrêter de travailler à 4h si vous voulez être sur l'horloge biologique. Et même la diminution du temps de travail absolu depuis les débuts du capitalisme n'y a rien changé. Le travail en équipe, par exemple, s'est étendu et grâce à un roulement par 2 ou 3 équipes, les machines tournent sans arrêt. De même, les horaires d'ouverture des magasins et supermarchés doivent se rapprocher le plus possible des 24 heures. dans de nombreux pays, aucune réglementation ne régit plus la fermeture des magasins et beaucoup de boutiques affichent ouvert 24 heures sur 24 heures. Et puis, bien sûr, avec les nouvelles technologies de communication et l'informatique, bien, ça a permis encore plus d'oublier, je dirais, le temps biologique. Et notamment, par exemple, les marchés financiers qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y avait même une publicité d'une banque japonaise qui proclamait « Les marchés financiers ne dorment jamais ». En effet, la nuit, dans ce contexte, devient le sommeil. La nuit, le sommeil deviennent des ennemis. Car quand on dort, on rate des chances et on prête le flanc aux attaques. Dans l'économie libérale, le sommeil de l'homme devient court et léger comme celui d'une bête sauvage, et ce, proportionnellement à la volonté de réussite de l'individu, bien sûr. Il existe par exemple des séminaires pour managers où l'on peut apprendre des méthodes de minimisation du sommeil. Et des écoles de management prétendent avec le plus grand sérieux que l'homme d'affaires idéal ne dort jamais, comme les marchés financiers. Et tout ça, bien sûr, ça a été possible grâce à la lumière artificielle. Tant qu'il n'y avait pas la lumière artificielle, c'était compliqué de faire travailler les gens tout le temps. Quand je parle de travail, d'ailleurs, je parle aussi bien des loisirs, puisqu'aujourd'hui, volontairement, on arrive à se priver de sommeil volontairement pour ses loisirs. On y reviendra. Mais cette soumission des hommes au travail abstrait et à sa mesure du temps astronomique n'a été possible que grâce à un contrôle total. Ça ne s'est pas fait comme ça, ce n'était pas si facile. Et ce contrôle intégral, il exige une observation tout aussi intégrale. Et celle-ci n'est possible que grâce à la lumière. Et la boucle est bouclée. Une société où chacun est l'ennemi de l'autre et de lui-même, car tous doivent servir le même dieu sécularisé du capital, devient par nécessité logique un système de surveillance et d'auto-surveillance totale. Dans un univers mécaniste, l'être humain doit lui aussi devenir une machine et être traité mécaniquement. C'est dans ce but que les Lumières l'ont dressé et rendu transparent. Le philosophe Michel Foucault a très bien montré dans son ouvrage « Surveiller et punir » qui est sorti en 1975, comment cette visibilité est devenue un piège historique. Je vous rappelle que cet article a été écrit en 1998, époque où Internet était encore naissant et où les réseaux sociaux et tout ce qu'on veut de cette sorte n'existaient pas. La société de l'économie libérale n'est donc pas la sphère d'une communication libre, mais celle de l'observation et du contrôle. Comme l'avait déjà montré George Orwell dans son ouvrage 1984. Alors, si dans les dictatures totalitaires, ce contrôle et cette surveillance étaient extérieurs et exercés par des appareils d'État et de police bureaucratique, la démocratie, et là c'est toute sa force, la démocratie les transforme en autocontrôle intériorisé. Autocontrôle un petit peu appuyé quand même par les médias, notamment les médias commerciaux, où, nous dit Robert Kurtz, les projecteurs des camps de concentration sont remplacés par les lumières d'une monstrueuse kermesse. Dans la démocratie commerciale, ce système s'est tellement affiné que les individus obéissent spontanément aux contraintes capitalistes. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, puisque au-delà des temps de travail imposés, eh bien, nous nous contraignons à des rythmes qui ne sont pas du tout nos rythmes biologiques, qui sont des rythmes imposés. Et on se contraint à la lumière artificielle tout le temps, on se contraint à un chronomètre permanent, etc. Robert Kurtz conclut cet article en nous disant « Ce n'est qu'en libérant la nuit, le sommeil et le rêve de cet emprisonnement réactionnaire que ces aspects nocturnes de la vie pourraient devenir les mots d'ordre d'une critique sociale émancipatrice. » Et en effet, j'avais envie de rajouter une petite conclusion. Est-ce que la meilleure façon de résister au marché globalisé n'est pas, petit 1, éteindre les lumières et tous les écrans qui la reflètent. Petit 2, jeter nos montres, réveils et autres instruments qui chronomètrent notre temps. Petit 3, renoncer à tous les instruments qui veulent faire de nous des êtres transparents. Internet, les cartes à puces et tous les systèmes de fichage. Et enfin, quatrièmement, dormir. Car dans un monde en mouvement perpétuel, dormir, c'est résister. Voilà pour cette chronique d'aujourd'hui. Donc, ben, bonne nuit. Hein. Et je vous rappelle le titre de l'ouvrage, « Avis aux naufragés » de Robert Kurtz, paru aux éditions Ligne en 2005. Bonne lecture et à la prochaine fois.